on va marquer une petite parenthèse dragon, puisqu'on avait donc décidé de parler également de ce qui touche le rugby à 13 français de près, en l'occurrence l'Alaire. Et puis on a eu une information qui est tombée il n'y a pas très longtemps, ça fait c'est parti de bouche à oreille, et puis bon, ça commence à se dire un petit peu, à se lire dans la presse. Là, je pense qu'Hervé sera en mesure peut-être de nous répondre. Lézignan serait susceptible de vouloir déposer un dossier pour intégrer la Championship. Est-ce que tu es au courant? Je pense que oui. Et quel est ton avis? Et ça en est où, si tu sais où ça en est?
Non, en tant que fédération, je ne suis pas au courant de cette demande. Mais bon, ça, vous savez, on n'empêchera jamais les clubs de vouloir rêver à un meilleur niveau sportif. Moi, pas plus tard qu'hier après-midi, j'étais en réunion justement avec la SEC. La SEC aussi m'a fait part d'un projet justement au niveau de l'Aude, avec Limoux aussi. Vous savez, des projets de National League One, il y en a pas mal. Tout le monde à des moments rêve un peu. Bon, on ne peut pas empêcher les gens de vouloir jouer à un niveau dessus. Bon, maintenant, je pense que l'Alaire a souffre depuis 4 ou 5 ans, justement depuis l'avènement des Dragons catalans. L'Alaire était toujours, c'était à la lumière de notre mouvement. Depuis 4 ou 5 ans, c'est vrai qu'elle est un peu plus en retrait, qu'elle souffre de ce manque de lisibilité, quoi. C'est vrai que les supporters trésistes vont voir les Dragons et on oublie un peu le championnat d'élite, pourtant qui est de très bonne qualité, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'en ce moment, fédéralement, tout le monde planche justement pour essayer de trouver la meilleure des solutions à ce que ce championnat de l'air ait la meilleure lisibilité. Il y a des projets, bon, je crois qu'il ne faut pas partir aussi dans tous les sens, et on ne peut pas empêcher, comme je vous disais, un club de rêver de jouer en National League One. Mais je pense quand même que la prudence, la sagesse, c'est de structurer encore mieux notre l'air, et rien ne nous empêchera dans 2-3 ans d'avoir des projets, un projet départemental. Mais je crois qu'en ce moment, il ne faut pas aussi vouloir voler trop vite, sans voler trop vite.
Louis, ton avis sur le sujet?
Le problème, c'est que c'est toujours l'éternelle discussion maintenant, depuis l'arrivée des Dragons et le départ de Toulouse aussi du championnat. C'est que quand même les Dragons ont respecté quelque chose qui était une condition d'engager une équipe dans le championnat de Fresnes, ce qu'ils ont toujours assumé, hein, c'est quand même important. Et Toulouse, qui avait cette obligation aussi, n'est pas respectée par Toulouse, et la participation aussi à la Coupe de France qui devait être pour Toulouse n'a pas eu lieu. Donc tout ça, ça contribue quand même. Je ne rends personne responsable, et surtout pas Toulouse, parce qu'ils ont leur projet. Mais ces obligations qui étaient faites à un moment donné ont été respectées et ont permis quand même au championnat d'élite de survivre, parce que la pyramide, la nouvelle pyramide française qui est en train de se construire, c'est avec l'équipe de France. N'oublions jamais que le sommet doit toujours être l'équipe de France, et derrière des structures qui l'alimentent. Donc aujourd'hui, Laurent l'a signalé tout à l'heure, bon, ça pose des problèmes aux Dragons, parce qu'il y avait pratiquement 90% de l'effectif de l'équipe de France qui était Dragon. Ça perturbe un peu l'entraînement des Dragons, mais surtout ça montre aussi que l'équipe de France est constituée avec, sur 13 joueurs, il y en a 10 des Dragons, alors que l'équipe d'Angleterre, dans une autre configuration, est constituée avec des joueurs qui sont issus de 10 clubs. Donc voilà, je pense que c'est celle-là la problématique qui existe derrière tout ça. Et je crois que l'équipe de France en aura un véritable bon équilibre, que lorsqu'il se passera ce qui se passe au Dragon, c'est qu'une ossature de joueurs de Dragon confirmés, comme le sont les Australiens par exemple aujourd'hui, permettront à des jeunes talents de s'exprimer et de se développer. Donc c'est sur cette base solide que se construira la pyramide, la filière dite du haut niveau français, qui pour le moment est un peu déstructurée.
Exactement. Alors Hervé, je m'adresse à toi.
Oui, excusez-moi.
En tant que vice-président, tu seras en mesure de pouvoir nous informer. Le projet Paris, parce que tout le monde fantasme là-dessus, est-ce qu'il y a du concret? Est-ce qu'il y a des demandes qui ont été formulées, ou du moins est-ce que la fédération
a
été informée?
Bien sûr, ce n'est pas du concret. Il y a un projet, il y a des gens qui travaillent sur une équipe de Super League. Des dirigeants, des futurs dirigeants parisiens ont rencontré, durant justement le Four Nations, ont rencontré Colin Love, le président australien, et Richard Lewis, le président anglais.
Donc, quel dirigeant? Dirigeant d'où?
Du Stade français.
D'accord.
Du Stade français, non, c'est clair. Donc il y a un projet qui est qui se monte. La veille du match, ce n'est pas un secret. Bernard Laporte est venu remettre le maillot aux joueurs d'équipe de France. Il leur a annoncé officiellement le projet, qu'il était partant pour un projet, qu'il faisait tout pour qu'il y ait une équipe de Super League à Paris en 2012. Quoi. Donc il n'y a pas de lézard. Quoi.
Donc Hervé, moi ma question sera toute simple. Quid de Toulouse si la candidature de Paris est meilleure que...
Je crois que dans le monde du milieu à 13 français, on mélange tout. Il faut se dire que nous sommes les invités des Anglais. Donc quid, moi je ne peux pas vous dire. La Fédération française rugby à 13 ne peut pas vous dire. Il faut toujours garder en mémoire que nous sommes les invités des Anglais. Donc c'est les Anglais en 2011-2012 qui vont une fois de plus décider des franchises et d'étudier les meilleurs dossiers. Contre Toulouse, personne n'a rien contre Toulouse. Toulouse a présenté quand même deux fois un projet Super League. Deux fois ils ont échoué. Il faut quand même l'avoir en mémoire, puisque le premier projet, il y avait Toulouse, Villeneuve et les Catalans qui avaient demandé. C'est l'UTC, c'est les Catalans qui ont eu le projet. La dernière franchise, ils ont présenté le projet, ils ont été rejetés entre parenthèses, donc on leur a permis de jouer à National League One. Maintenant ils ont des objectifs sportifs que demande la fédération anglaise. C'est à Toulouse à leur empire. Ouais, je pense que les Anglais ne sont pas plus idiots que les autres. Ici en 2011, Toulouse a montré qu'ils avaient l'ossature, qu'ils avaient tous les critères correspondant à avoir une équipe à une franchise en Super League. Les Anglais ne sont pas plus royalistes que le roi, ils accepteront. Maintenant il faut arrêter de mettre une querelle, un combat quelconque entre le futur Stade français et Toulouse. C'est pas nous en plus de Fédération française qui décideront. Une fois de plus, c'est Richard Lewis qui décidera avec les clubs anglais, parce qu'il ne faut pas croire aussi, pour revenir après au projet de Lézignan, hein. Moi je suis Lézignanais, donc j'adore Lézignan, j'aimerais bien qu'il y ait une équipe nationale Ligue 1, mais là aussi il faut garder en mémoire que ce sont les clubs anglais aussi qui décident, et il faut pas croire que tous les clubs anglais aient envie, Featherstone, Barrow, de venir une semaine sur deux jouer en France. Eux aussi, ils ont d'autres impératifs, d'autres critères, et ils sont bien entre eux aussi. Donc, il faut pas, arrêtons de rêver à des moments, et gardons, moi je dis, et je reviens quand même à la force de notre mouvement. On a besoin d'un mouvement fort, et on a besoin d'un championnat à l'air fort. Donc, structurons nos clubs en dessous des Dragons pour l'instant, et ça sera, et on aura un championnat, une vitrine française comme on est en droit d'attendre. La finale Limoux-Carcassonne a drainé pratiquement 13 000 personnes. Lorsqu'il y a du mouvement, lorsqu'il y a des affiches, les gens répondent présents. Donc, arrêtons aussi de penser en permanence aux Anglais. Les Anglais ne sont jamais venus sauver le mouvement à 13 français. On s'en sortira toujours grâce à nous, les 13istes français, c'est tout.
Merci Monsieur Gureau pour cette franche explication. Je vais donner la parole à Monsieur Bonnery.
Oui, non, moi c'était une information quand même qui peut par ricochet quand même sur Paris, le projet de stade qui quand même conditionne aussi le projet de l'équipe de Super League à Paris.
Projet qui a été refusé par la mairie de Paris, voilà, pour l'extension du nouveau Jean-Bouin.
Voilà, la rénovation de Jean-Bouin. Je pense que ça va s'arranger, mais pour le moment les travaux qui devaient débuter au 1er janvier et qui allaient doter ce club d'une infrastructure qui pouvait être utile à la Super League, bon, je pense que c'est quand même un problème nouveau qui vient d'arriver dans le dispositif, qui n'était pas prévu.
Alors, moi, j'ai ouï dire dernièrement en Carcassonne, alors info ou intox, que Carcassonne et Nîmes seraient approchés de Lézignan pour essayer de déposer un projet auprès de la Super League et que Lézignan aurait refusé. Info ou intox, Hervé, tu l'as bien informé.
Ce sont les raisonnements au doigt, donc moi je n'en sais pas plus. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que les trois clubs au doigt se sont rapprochés pour faire le championnat départemental, et que je pense qu'il y a un projet qui se met en place. Les Carcassonnais ont eux aussi envie d'avoir une équipe en National League One, mais tout ça, c'est au stade des projets, et on ne l'empêchera pas, quoi. On peut pas l'empêcher. Oui, il y a Montpellier, déjà.
Ah, Montenegro,
il y a Bordeaux aussi.
Moi j'ai connu il y a 7 ans, il y avait un projet à Lille aussi.
Il parlait aussi de l'Andorre, mais l'Andorre, c'est pas le groupe, il fait trop froid en ce moment.
Donc je crois qu'il faut, voilà, il faut arrêter un peu de rêver, avoir un peu la réalité des choses.
Bon, d'accord. Laurent, sur le sujet, on sort un peu du cadre Dragon, mais c'est une question piège. Quel est ton avis sur le sujet, justement, sur une éventuelle participation, du moins une éventuelle demande des clubs audois pour essayer, avec une réunification bien sûr, d'intégrer peut-être le championship à moyen terme?
Je sais pas, moi j'ai eu, pas eu d'infos d'intox, donc j'en sais rien, mais je sais que pour le mouvement trésiste, ça serait bien qu'il y ait plusieurs clubs qui jouent à haut niveau, donc que ce soit en Super League ou en Ligue 1 qui est au niveau au-dessus du championnat français. Ça serait bien parce que ça structurerait, comme a dit Louis tout à l'heure, un peu plus cette équipe de France, et cette équipe de France serait sûrement beaucoup plus compétitive. Après, c'est vrai qu'avoir trois équipes en Ligue 1, deux en Super League, et avoir un championnat français à quatre équipes, ce serait peut-être pas non plus l'idéal. Quoi.
Bon, déjà 9, c'est un peu léger, hein,
c'est clair.
Et Laurent, à l'horizon 2012, pour toi, est-ce que le réservoir de joueurs français serait suffisant à avoir deux squads pour jouer en Super League, que ce soit Paris, Toulouse ou autre?
Ou l'Andorre.
Il sera juste. Le réservoir est très très juste. Donc, je pense qu'après 2012-2015, pourquoi pas, parce que ce sera une génération qui auront vu les Dragons évoluer, voilà, qui auront grandi avec les Dragons. Et à l'heure actuelle, ouais, je pense qu'on est un petit peu court.
Oui, alors Laurent, une question qui je m'adresse au responsable des Dragons ici. Quand même, dans le championnat de France, lorsque l'équipe de l'Entente 13 Catalan Saint-Estève se déplace, elle aligne régulièrement quand même un certain nombre de joueurs qui sont dans le squad des Dragons catalans. Et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors, bon, je sais, Christophe, que tu étais à Limoux le jour où moi j'ai vu ça. L'équipe de 13 Catalans Saint-Estève n'a pas gagné un match contre les équipes de l'Aude, que sont Limoux, Carcassonne et Lézignan, avec quand même des joueurs qui ont joué dans l'équipe de France et qui appartiennent quand même à l'effectif des Dragons catalans. Alors, comment vous expliquez ça? Parce que ça suscite quand même des questions, parce que le public se déplace, le public quand même qui n'a pas les moyens forcément de venir tout le temps voir jouer les Dragons à domicile, est quand même très satisfait de se déplacer dans les rencontres de championnat pour voir les joueurs de renom qui sont à la fois dans l'équipe de France et à la fois dans les Dragons. Mais aussi, il faut que la performance sportive soit au rendez-vous.
Je ne vais pas répondre plutôt à la place de Laurent Vrécineau qui est plus technicien que moi, et pour répondre à ça, ce que je peux dire de mon point de vue, c'est que c'est une particularité dans le club des Dragons d'avoir cette équipe engagée en championnat de France et dans laquelle on fait évoluer. Alors la moyenne des joueurs est quand même très jeune, puisque beaucoup de juniors évoluent, et je crois que c'est la politique du club de repérer des joueurs, de les faire évoluer dans ce championnat de France pour voir un peu ce qu'on pourra en tirer à l'échelon au-dessus. Alors c'est vrai aussi qu'on est comporte des joueurs qui sont censés être dans le staff des 25 et qui ont joué même dans l'équipe de France, mais il faut savoir qu'ils sont en pleine préparation à ce moment-là avec les Dragons, et pour en avoir discuté avec une paire de joueurs ou avec les techniciens, c'est quand même difficile puisqu'ils ont un programme donc de pré-saison pour les Dragons, mais on leur demande aussi de venir filer un coup de main aux jeunes de Saint-Estève 13 Catalan le dimanche. Donc ce qui explique des fois peut-être des baisses de forme que le jour du match, que pourra confirmer Laurent. Maintenant, ça amène aussi une discussion, et je rebondirai sur les propos d'Hervé Guéraud, sur le fait que le championnat de France d'élite 1 n'est pas si mauvais que ça non plus. Et puis c'est vrai que j'ai assisté au match à Limoux, il y a eu derrière le match tu parlais des trois rencontres contre les clubs audois. Je crois qu'il y a trois équipes qui sont solides, et ça prouve aussi la qualité de certaines équipes en l'air, quoi.
On s'aperçoit d'une chose quand même qui est assez criante. Le championnat est sacrément rajeuni. Alors est-ce que c'est une volonté de la part des clubs de former des jeunes plutôt pour être performants très rapidement, ou est-ce que c'est justement un manque d'effectifs? L'explication serait où, selon toi, Christophe?
Non, mais je crois que beaucoup de clubs ont compris aussi, dès lors que la fédération a voulu sensibiliser les clubs sur la pérennité, j'allais dire, structurelle et financière des clubs, et de plutôt faire travailler dans la formation plutôt que de faire revenir des étrangers dans le championnat de France. Donc ce qui explique aussi que de nombreux joueurs et la qualité du travail qui est fait, peut-être à l'image de ce qui se fait ici à Perpignan avec les Dragons, je crois que beaucoup de clubs aussi se calquent là-dessus et travaillent un maximum au niveau des cadets, des juniors, ce qui amène aussi une certaine qualité en junior
et en senior première ou deuxième année. Et c'est les gens qui prennent leur, la place des joueurs, j'allais dire, plus chevronnés, qui basculent peut-être dans d'autres divisions. Quoi.
Et l'explication justement des performances de l'équipe de France junior cet automne là, c'est sûrement dû à ça aussi, le fait que ces joueurs sont plus aguerris en jouant en championnat élite notamment.
Oui, je pense qu'il y a un réel programme déjà de formation et de détection qui a été mis en place il y a déjà quelques années par la fédération au niveau des jeunes. Il y a un travail remarquable qui se fait aussi au niveau des pôles. Et maintenant, je veux dire, des structures comme Ambition Dragon autour des Dragons bénéficient aussi de l'apport de techniciens expérimentés. Et tout ça, c'est vrai que ça tire aussi pas mal de monde vers le haut, et ça entraîne donc sur le terrain des équipes performantes. Et on l'a vu, comme tu le soulignais, cet automne, avec des victoires contre l'Australian Institute des Sports ou contre les Anglais, qui sont remarquables et qui ont été remarqués.
Alors justement, Louis, Hervé, je m'adresse à vous, qui avez vu plusieurs générations de jeunes joueurs au sein des équipes de France. Est-ce que vous pensez que ces performances-là, notamment face à l'Australie et l'Angleterre à Saint-Cyprien, il y a une réelle différence avec les années précédentes ou pas spécialement ?
Je crois que quand même, lorsqu'on regarde les palmarès dans le temps, les équipes juniors françaises sont toujours bien comportées par rapport à leurs adversaires. Pourquoi ? Parce que l'entrée dans la division professionnelle dans les pays comme l'Australie ou l'Angleterre est beaucoup plus précoce que la nôtre. Et eux ont un principe que si un joueur est dans la division professionnelle, il ne joue plus dans ses divisions inférieures. Ça lèse le joueur en termes de sélection, mais c'est une logique qu'ils ont eux. Donc je pense que très sérieusement, si les Australiens et les Anglais mettaient les joueurs qui sont dans les divisions supérieures et qui ont le même âge, il n'y aurait même pas de débat. Par contre, nous c'est très important parce que ça donne quand même une certaine confiance à nos joueurs et ça leur permet de passer un cap. Donc ces résultats sont conformes. Je pense que Christophe a oublié aussi, et je veux rendre hommage quand même à tous les présidents de comités de ligue et qui préparent des sélections de comités qui jouent les championnats de France intercomités et les sélections de ligue aussi. Malheureusement, dimanche, la neige nous a perturbés puisque c'était en province et qui sont quand même le creuset et les prémices de l'entrée de tous ces jeunes dans ces fameuses filières qui se construisent et que maintenant, je pense, c'est un des gros chantiers. Il va falloir harmoniser et organiser. Voilà, tout le monde travaille, mais il va falloir mieux l'organiser, à mon avis.
Alors, on voit beaucoup de gamins, hein, parce qu'on peut les appeler des gamins, de 18 ans, qui intègrent donc les équipes de l'Élite 1. Et là, en l'occurrence, pour revenir chez les Dragons, Barthaud, Gigot, Gouache qui intègrent l'équipe. Est-ce que, Laurent, c'est pas un peu prématuré ? Bon, ça se fait également dans d'autres équipes, évidemment, mais est-ce que tu penses qu'ils auront une carte à jouer dès cette année ou il faudra encore patienter un petit peu ?
Je sais pas s'ils auront une carte, mais ils sont là, ils sont sûrement pas prêts à jouer une saison entière. Par contre, ils sont là pour apprendre, que ce soit d'une part au contact de joueurs professionnels comme Dallas à côté de moi, et puis d'autre part apprendre aux entraînements, apprendre pendant un match. Si jamais il y a des blessures, ben on comptera, c'est sûr, sur eux. Et puis s'ils font un match, deux matchs cette année, ils en feront peut-être quatre l'année d'après, et puis six, et puis à un moment donné ils arriveront à tenir une saison complète sur les constantes. Donc ça c'est le but. Si on prend, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Rémi Casti, qui la première saison a très peu joué, exact. Et puis la deuxième saison a fait beaucoup plus de matchs, et puis autant cette année il va exploser complètement, même s'il a déjà fait la saison dernière. Mais et voilà, il y a le demi-mêlé de Saint-Hélène, Kyle Ismond, qui depuis moi que je suis entraîneur assistant au Dragon, et je le vois dans les équipes de jeunes, mais il est dans le squad de Saint-Hélène, mais il fait 1, 2, 3 matchs, et puis cette saison il se retrouve en finale du 4 Nations avec l'Angleterre.
C'est énorme d'ailleurs. Hein.
Voilà, donc voilà, ils sont là pour apprendre. Après, la vitesse à laquelle ils apprennent, ça ne dépend qu'eux, mais pour l'instant, il faut qu'ils apprennent.
Alors justement, est-ce que tu pourrais un peu nous décrire les qualités de chacun, donc David Gouache, William Barthaud, Tony Gigot, individuellement, qu'est-ce que tu retiens de ces trois joueurs ?
Que techniquement, tous les trois sont très très à l'aise, capables de faire des passes dans les intervalles pour leurs coéquipiers des deux côtés. Voilà, ils ont surtout, je pense, à travailler leur défense, leur technique de plaquage individuel. parce que voilà, pour l'instant ils sont je dirais pas encore bien faits physiquement comme de certains joueurs pros, mais voilà, ils continuent d'évoluer, de prendre du poids pour justement tenir cette comparaison physique. Mais voilà, une petite carence au niveau de la technique de plaquage, mais techniquement très intéressant. Tous les trois, un excellent jeu au pied. Et puis voilà, tactiquement, ils continuent à apprendre, comme je disais tout à l'heure, aux côtés de joueurs chevronnés pour, à un moment donné, amener l'équipe derrière eux dans les endroits où il faut.
Ce serait bien de savoir ce que Dallas en pense. Bon, c'est un peu prématuré parce qu'il les découvre à peine, mais s'il a déjà une petite opinion sur ces trois joueurs-là. Au secours, Laurent, pour la traduction.
But yeah, on the training paddock they look very sharp, and look really good, real players of the future. So it's great to. I want to get out there and watch more, and I'm sure they'll come through the ranks and play first grade at some stage.
Dit que c'est vraiment des joueurs d'avenir et voilà, ils tarderont pas à jouer à ce niveau-là. Et voilà, ils sont pleins de qualité et en plus ils ont mangé ensemble hier soir.
Est-ce qu'il est informé que la France a battu l'Australie quand même, parce qu'il faut le dire, un junior.
Oui, il a été au courant hier soir parce que ils ont mangé ensemble tous les quatre et donc Tony lui a pris. Non,
bon, ça va, alors.
Pas du tout, au contraire.
Ça va.
Une question pour Laurent encore, hein, maintenant que tu as le micro. Hein. Voilà, il y a encore un internaute qui te pose une question, mais elle revient à Laurent. Elle revient tous les jours cette question sur le forum. Est-ce que tu te sens prêt un jour pour prendre la direction sportive des Catalans? Alors, cette question elle revient tout le temps.
Alors, prêt à l'heure actuelle, non. Un jour, c'est mon objectif. C'est, voilà, j'ai l'objectif un jour d'être l'entraîneur en chef des Dragons. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour un jour y arriver. Après, ceci dit, je ne suis pas pressé. J'ai envie d'apprendre aux côtés de professionnels. J'ai appris aux côtés de Mick Potter. Je continue d'apprendre aux côtés de Kevin. Peut-être qu'il y en aura un qui suivra encore, je ne sais pas. Mais voilà, je suis avide de leçons à retenir. Et voilà, je continue d'apprendre. Et le jour où je serai prêt, je lèverai la main et j'irai voir mon président.
Très bien. Pour rebondir donc sur les trois joueurs dont on parlait, donc Gigot, Bartho, Gouache, Louis et Hervé qui n'écoutent plus, donc on va passer
à Hervé. Il parle.
Ça vous parle, c'est ce trio qui pour l'instant fait les beaux jours de Saint-Étienne 13 Catalan?
Oui, ben c'est quand même des espoirs. C'est très encourageant de voir cette nouvelle vague qui arrive. Mais cette nouvelle vague va être obligée par le passage qu'a connu Castille, Ferriol même, qui la première année, pourtant qui était un joueur confirmé en Super League, et qui ont mis, il y a une période d'adaptation, un temps de travail nécessaire pour être un joueur régulier de Super League. Et encore certains qui sont quand même là le sont. Peut-être plus par défaut que par le fait qu'il se soit déjà imposé, mais on sait que la construction d'un joueur de Super League, d'un joueur professionnel, comme dans tous les sports, c'est un processus qui commence tôt et qui est très long. Exactement. Et qui arrive à maturité souvent à quelques encablures de la fin de carrière, puisque les carrières sont très courtes lorsque les joueurs sont dans la pleine possession de leurs moyens. Mais c'est le passage obligé et c'est très bien de voir cette équipe où les Français, quand même, sont bien encadrés. Il faut remercier ces Australiens qui, quand même, leur apportent une certaine sécurité et beaucoup de savoir-faire. Et c'est à leur contact que, finalement, ils se développeront et ils grandiront. Moi, je suis très content de les voir, ces jeunes. Parce qu'en championnat, on sent quand même des comportements. Le public apprécie par moment, même s'ils sont pas forcément... s'ils sont un peu perturbés par des problèmes de préparation, de rythme, à des moments, il y a des gestes, des comportements qui montrent que ces joueurs sont d'un très bon niveau.
Du talent, effectivement. Hervé Guiraud, ton avis ?
Écoute, moi je crois qu'il, de toute façon, il n'y a pas de secret. Bon, la qualité de ces joueurs, on la connaît. Bon, le résultat de nos juniors contre les Australiens et les Anglais dernièrement, bon, ce n'est quand même pas le fruit du hasard. Tu es bien placé pour le savoir. Depuis 2-3 ans, quand même, il est fait un travail en profondeur au niveau des juniors. Ils se voient régulièrement, des stages, il y a un encadrement professionnel. Donc, ces jeunes sont bien ensemble. Donc, après, derrière, il y a le résultat, c'est tout à fait normal. L'épaule qui qui marche bien aussi. Puis aussi, il faut dire, dans cette aspiration, vouloir à tous ces jeunes, à vouloir se retrouver au Dragon. Et ensuite, voilà, le travail qui est fait ici au niveau des Dragons. Je pense bon, à Sébastien Munoz qui travaillait dans l'ombre. Mais justement, après, à se retrouver avec les Dragons sur le terrain, vivre avec eux, apprendre des techniques de plaquage, le professionnalisme, bon, c'est tout profitable. Et c'est vrai qu'on a maintenant le fruit, ces joueurs sont au top. Moi, je prends encore un exemple, le Four Nations. On a vu des joueurs en équipe de France, des jeunes éclatés. Je pense au petit Benley qui a prouvé qu'il pouvait encore jouer le niveau dessus. On a vu Vincent Duport faire un très bon Four Nations. Donc ces garçons sont prêts, et je crois que tout cela on le doit aussi à l'excellent travail et des structures fédérales et au travail des Dragons.